tout de suite sur MDM. Les Landes, c'est ma nature. L'environnement dans notre région. Avec Jeanne-Marie et Marie-Claire. Les Landes, c'est ma nature.
Bonjour aux auditeurs de Radio MDM, c'est l'émission Les Landes, c'est ma nature. Nous allons avoir une, même deux émissions un petit peu particulières dans un domaine que je n'ai pas encore abordé, ni Marie-Claire d'ailleurs. C'est le domaine de la construction de maisons. C'est un petit peu particulier car cela demande effectivement une approche technique qui est effectivement tout à fait différente des approches techniques de l'agriculture par exemple ou de l'élevage qu'on aborde plus facilement ici. Mais voilà, je suis chez un concepteur de maison que je vais vous présenter, qui s'appelle Stéphane Renoul, qui également est metteur en scène. C'est une vraie passion chez lui, on en parlera à la fin de ces émissions. Et tout d'abord, Stéphane, bonjour.
Bonjour, donc je suis Stéphane Renoul, je suis effectivement, aujourd'hui, si on me demande qui suis-je, je dis plutôt que je suis metteur en scène, puisque c'est ma seule fonction, je suis retraité depuis 2 ans. Mais c'est pas grâce à cette activité que j'ai gagné ma vie jusqu'alors. J'ai travaillé dans un bureau d'études, celui de l'hôpital en particulier, et là j'ai été confronté à la construction de manière générale et à toutes les problématiques qui sont engendrées par leur conception.
Alors évidemment, il faut revenir un petit peu aux sources, c'est-à-dire est-ce qu'il faut une formation particulière, laquelle, ou bien est-ce que ça a été ton cas, quel a été ton itinéraire professionnel, d'abord de formation, puis professionnel?
Alors moi, au départ, j'avais pas de vocation à travailler dans les bâtiments. J'ai une formation technique, je suis automaticien de formation, donc j'ai été grâce à cette formation impliquée dans tout ce qui est conception informatique, programmation informatique et utilisation des ordinateurs au sens large. À l'hôpital, j'intervenais pour dépanner du matériel médical et c'est comme ça que je suis rentré à l'hôpital. Mais mon activité dans les bâtiments, elle s'est faite une dizaine d'années après en intégrant le bureau d'études de l'hôpital.
Alors, on parle beaucoup des bureaux d'études en ce moment, mais pas forcément pour les mêmes raisons, bien entendu. Mais dans un bureau d'études de l'hôpital, qu'est-ce que c'est ?
Le bureau d'études de l'hôpital, c'est un bureau d'études où quand j'y étais, on était trois. Je parle du bureau, après il y avait un responsable au-dessus, mais donc dans le bureau, on était trois. Et notre fonction, c'était de répondre aux demandes du directeur pour améliorer ici ou transformer là le fonctionnement d'un service à travers son architecture. S'il fallait créer une salle d'attente ou supprimer une salle d'attente ou agrandir le bureau du médecin ou le réduire, il fallait bien étudier sa faisabilité et faire les travaux par des entreprises extérieures. C'était notre activité.
Il faut donc être un peu au carrefour de différentes professions.
Il faut être au carrefour, il faut connaître le fonctionnement, il faut connaître un peu tous les métiers qui sont autour du bâtiment, que ce soit les couvertures, la maçonnerie, la plâtrerie, l'électricité, l'informatique, la plomberie, tous ces corps d'État, il faut savoir les gérer pour les penser et puis les suivre quand il s'agit de faire les travaux.
Durant cet itinéraire professionnel, à un moment, tu m'as expliqué tout à l'heure que tu avais pris une orientation liée à la conception des bâtiments aussi, dans les années 2000.
Moi, personnellement, grâce à mon activité à l'hôpital, j'ai été amené à concevoir ma propre maison. Mm-hmm. Et puis, j'en ai fait une, et puis je l'ai revendue, j'en ai fait une deuxième, et puis j'en ai fait une troisième. Avec à chaque fois l'objectif de faire mieux, faire mieux d'un point de vue énergétique. C'est là où j'étais un petit peu frustré à l'hôpital, c'est qu'à l'hôpital, j'étais contraint de faire, comme on demandait, à savoir de faire à minima les travaux. Et par passion, je suis un peu intéressé par non seulement par le théâtre et la mise en scène, mais aussi je suis un peu intéressé par l'écologie, et je trouvais dommage de ne pas introduire dans le secteur hospitalier cette notion écologique pour faire que ces bâtiments soient le moins énergivores possible. Donc j'ai appliqué chez moi ce que j'étais en incapacité de faire dans l'hôpital.
Alors, selon toi, quels sont les obstacles justement pour que les bâtiments publics, par exemple, tiennent davantage compte des contraintes écologiques et fassent des économies finalement à terme?
La première contrainte, c'est l'orientation. Parce que pour faire un bâtiment dit écologique qui soit le moins énergivore possible, il faut que ce bâtiment soit bien orienté. Et il est évident qu'on peut pas, un hôpital ne peut pas être orienté tout le temps plein sud. Il y a forcément des bâtiments qui sont au nord et qui doivent avoir des fenêtres au nord. Ça, c'est une évidence. Donc, ce qu'on peut faire pour une maison, une habitation particulière, est pas forcément transposable à l'hôpital qui, lui, doit couvrir des parcelles qui sont telles qu'elles sont avec des bâtiments existants. Maintenant, on peut agir quand même sur ces bâtiments qui sont mal orientés sur leur degré d'isolation, ce qui n'était pas toujours le cas. Alors aujourd'hui, ça va de l'aide puisque la réglementation va imposer à ce que ce soit, mais ce n'était pas le cas quand j'étais en activité.
Alors ça, c'est le principal obstacle. Est-ce qu'il y en a d'autres ?
La volonté individuelle d'un chef d'établissement ou du responsable des services techniques.
Le budget, peut-être ?
C'est ce qu'ils vont dire en réalité. On peut imaginer qu'un bâtiment qui soit isolé avec 10 cm de laine de verre ou qui soit isolé avec 25 cm de laine de verre, ça va prendre un peu plus d'espace si on isole par l'intérieur, ça ne va pas en prendre du tout si on isole par l'extérieur, et ça va coûter à l'échelle d'un bâtiment peut-être 2000 euros ou 3000 euros de plus. C'est pas ça qui va changer grand chose à la facture.
Alors comment expliquer dans ce cas qu'on isole plutôt à 10 cm qu'à 25?
C'est une question qu'il aurait fallu poser aux décideurs de l'époque, décideurs qui sont partis à la retraite depuis peu et qui ne croyaient pas du tout au réchauffement climatique et à ces données.
Alors par exemple aujourd'hui, est-ce que ça coûterait très cher de reprendre l'isolation d'un bâtiment public de l'extérieur?
Non, tout est relatif. Une isolation par l'extérieur, on peut résumer, quand j'étais en activité, ça pouvait coûter autour de 100 euros le mètre carré. Donc ça a un coût, c'est sûr, mais ça s'amortit. Alors évidemment, un hôpital est toujours en mouvement. Alors est-ce que si on fait des travaux d'isolation aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudra pas les reconsidérer plus tard parce que le bâtiment aura changé de configuration? Ça, c'est autre chose. Des visions sur le très très long terme, c'est difficile d'en avoir sur l'hôpital, puisque par expérience, moi quand je suis arrivé à l'hôpital, il avait une configuration, et quand j'en suis sorti, il en avait une autre. Donc il est évident qu'il faut tenir compte de ça, mais on ne peut pas se retrancher derrière ça pour toujours faire un minima. En tout cas, aujourd'hui, la réglementation technique, la RT 2012 et bientôt la RE 2020, va imposer aux hôpitaux, comme à tout un chacun, à tenir compte de ce genre de données. Et il faudra bien le faire.
Et il faudra l'intégrer dans les budgets publics.
Il faudra l'intégrer dans les budgets publics, bien entendu, même si, selon moi, c'est pas quelque chose de très compliqué à gérer, puisque encore une fois, entre mettre 10 cm ou mettre 25 cm, c'est pas ça qui change énormément la donne d'un point de vue financier.
Alors si on revient donc à la formation que tu l'as faite notamment avec l'idée de concevoir ta propre maison.
Oui, puisque je me suis largement documenté sur le fonctionnement des maisons passives en Allemagne. Et j'ai vu qu'en France, on se limitait à la RT 2012, qui est trois fois plus énergivore qu'une maison passive.
Alors, il faudrait expliquer maison passive à nos auditeurs.
Ah oui, alors maison passive. Pour donner un ordre d'idée, une RT 2012, une maison qui correspond à la réglementation qui a été mise en œuvre jusqu'en 2021, était une maison qui pouvait consommer jusqu'à 50 kW par mètre carré par an. Donc retenez 50. Une maison passive, c'est une maison qui consomme maximum 15 kW² par mètre carré par an. Ça veut dire grosso modo 3 fois moins. Mmh. Voilà, la différence elle est là. Et aujourd'hui, moi qui habite une maison passive, pour donner un ordre d'idée, une maison qui fait 160 mètres carrés au sol, qui a des volumes relativement grands, c'est-à-dire que j'ai des hauteurs sous plafond qui font quand même 5 mètres. Donc en matière de volume, elle fait autant qu'une maison qui pourrait faire 200 mètres carrés. Cette maison me coûte à l'année, je dis bien à l'année, 80 euros de chauffage, soit 6,50 euros par mois si on lisse sur l'année. Donc autant dire que c'est dérisoire. Donc on comprend bien aujourd'hui avec ce qui se passe. Moi, quand on me parle d'augmentation de gaz ou de pétrole, à vrai dire, je m'en fiche un peu.
Dans l'idéal, effectivement, il faudrait arriver à concevoir toutes les maisons d'habitation selon ce modèle. Est-ce que ça a un coût au départ? Parce qu'il faut voir qu'effectivement, après, on économise beaucoup d'argent sur le chauffage, sur l'énergie. Mais après, au départ, il y a une mise de fonds?
Au départ, oui, forcément. Encore une fois, je vais revenir sur un chiffre qui va vous parler, je pense. Moi, j'ai isolé cette maison avec 35 cm d'isolation. Donc, ça va paraître beaucoup à des personnes qui sont isolées avec 10 cm, voire pas du tout. Mais voilà, c'était le deal. Je voulais beaucoup d'isolation et je l'ai faite avec du liège parce que ce matériau convenait à la maison que je souhaitais construire. Et donc, le liège m'a coûté 7000 euros. Si j'avais décidé d'isoler cette maison avec 15 cm, probablement que le liège m'aurait coûté 3500 euros. Donc, la surisolation, si on peut appeler ça surisolation, ou l'augmentation de l'isolation pour tendre vers le passif, m'a coûté 3500 euros. Donc, évidemment, c'est plus cher. Mais sur une maison qui va durer 50 ans, c'est très très vite amorti.
Alors, une maison qui va durer 50 ans, c'est intéressant parce qu'en fait, quand on pense aux maisons qui ont 200 ans, 300 ans hein, dans nos villes, bon, alors peut-être que la maison qui va durer 50 ans peut-être durer encore un peu plus longtemps.
Oui, bien sûr, j'ai dit 50 ans parce que moi, c'est le temps que je pense passer à l'intérieur. C'est-à-dire que, effectivement, on construit pour moi, on construit une maison pour soi, quoi. Donc, évidemment, je la vendrai ou je la confierai à mes enfants ou je ne sais quoi. Mais il est évident qu'elle sera toujours isolée de cette façon. Donc, c'est un gain pour quelque part pour moi, mais aussi pour l'humanité quelque part, oui.
Déjà, nous arrivons à la fin de ce premier volet et Stéphane va nous proposer un morceau de musique.
Oui, donc je vais proposer une musique qui s'appelle Merci. C'est de Hilary Hahn. C'est un morceau que je propose à mes adhérents de l'atelier pour se mettre en mode détente. C'est-à-dire que je leur demande de s'asseoir confortablement sur un siège, de bien se détendre les jambes, de bien poser leurs pieds sur le sol et de se libérer les épaules, de fermer les yeux et d'écouter cette musique. Elle est faite pour ça. Thank you.
Nous entamons cette seconde partie de l'émission Les Landes, c'est ma nature, qui est consacrée à ma maison passive et à l'interview de Stéphane Renoux, qui a réalisé ce type de maison. Et après nous avoir fait part de son parcours de formation, de son parcours professionnel, qui l'ont évidemment beaucoup aidé, il nous a parlé de son évolution personnelle et de la façon dont il a décidé d'édifier sa propre maison passive. Alors, dans ce domaine, la réglementation joue un rôle essentiel. Or, cette réglementation a beaucoup évolué depuis 20 ou 30 ans.
Moi, j'ai commencé le métier alors que la réglementation thermique en œuvre, c'était la RT 2005. C'était des maisons. À l'époque, on faisait des maisons qui étaient autour des... autour de 100 kW par mètre carré par an. On s'en accommodait, on va dire.
Alors, ça correspond à quoi ?
Ça veut dire que si on prend les échelles, quand on achète une maison, le vendeur est obligé de vous donner sur une échelle de A à F sa consommation énergétique. En 2005, on construisait des maisons, on acceptait des maisons qui étaient en C. Voilà. C'était pas optimum puisque la RT 2012 qui a succédé à la RT 2005 impose le A. Donc, on comprend bien que si une maison est en A, elle est beaucoup moins énergivore qu'une maison qui est en C. Maintenant, on pouvait, par des travers plus ou moins techniques, contourner la RT 2012 en mettant des pompes à chaleur et choses comme ça, qui étaient des substitutifs ou des moyens de contourner la réglementation. Enfin, c'est comme ça que moi je le perçois. Je n'imagine pas, certes une pompe à chaleur permet de restituer 4 quand elle consomme 1, sur le papier c'est bien, mais dans les faits c'est pas tout à fait ça. Et une pompe à chaleur, au bout de 15 ans, il faut la remplacer et ça vaut 15 000 euros. Donc si on divise ce chiffre, si une pompe à chaleur qui vaut 15 000 euros, on la remplace tous les 15 ans, ça coûte quand même 1 000 euros par an. Donc ça coûte, ça fait que le système de chauffage coûte finalement assez cher. Donc moi j'ai conçu mes maisons, puisque j'en ai fait 3 au total. La première c'était une RT 2005, j'ai fait comme tout le monde et j'ai vu les travers que cela pouvait avoir. J'ai fait une seconde, j'ai transformé une maison qui était à 200 kW par mètre carré par an, qui était donc en D je crois, et je l'ai ramenée en B, c'est-à-dire qu'elle faisait 70 en l'isolant par l'extérieur. Et donc là j'ai eu une maison d'un seul coup qui était devenue une maison très très confortable, parce que c'est ce qu'apporte essentiellement l'isolation par l'extérieur, c'est du confort d'été. Et donc la troisième, donc, c'est la maison passive que j'occupe actuellement. Et la réglementation thermique qui a évolué récemment, puisqu'au 1er janvier dernier, la réglementation applicable, c'est la RE 2020. L'arrêt RE 2020 impose tout simplement que les maisons qui sont construites à partir de maintenant ne seront pas à 15 maximum comme l'est la maison passive que j'occupe. En réalité, la mienne fait 7, mais peu importe, donc elle aurait pu faire 15, elle aurait pu être qualifiée de passive. La RE 2020 impose le maximum 0. Ça veut dire que les maisons qui vont être construites à partir de maintenant seront à minima neutres, voire positives.
Alors ça, c'est une grande amélioration.
Ça me paraît fondamental. À partir de maintenant, pour moi, ça fait des années que ça devrait être déjà comme ça. Je pense que si on avait commencé ça dans les années 2000, il y aurait peut-être eu un tollé dans un premier temps, mais aujourd'hui, on n'aurait pas la problématique qui se pose et qui s'impose aujourd'hui.
Alors justement, tout à l'heure, tu parlais de maisons passives, notamment en Allemagne. Ça a été plus répandu, mais il faut dire aussi, en Allemagne, il fait un peu plus froid qu'ici.
Oui, alors ça se conçoit encore un peu plus là-haut, parce que l'altitude des maisons allemandes, ça correspond à peu près au nord de la France. Alors évidemment, au nord de la France, il fait quand même beaucoup plus froid qu'au sud. Donc c'est encore plus facile à mettre en œuvre une maison passive dans le sud que dans le nord.
En ce qui concerne donc la réglementation, là, on comprend tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous expliquer dans ta maison actuelle qui est le résultat de l'acquisition d'un ancien bâtiment industriel, comment tu as fait notamment pour réaliser une maison passive?
Alors, non seulement j'ai voulu faire une maison passive, mais j'ai voulu faire une maison qui avait assez peu d'impact d'un point de vue énergétique. C'est-à-dire que j'ai voulu utiliser, c'est un ancien hangar qui existait depuis 70 ans, qui était un peu dans son jus, avait quand même ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une toiture en aluminium donc qui n'était absolument pas rouillé et donc était en très bon état. Une structure métallique qui supportait cette toiture et le reste était ouvert et avait une dalle en béton au sol. Et je me suis dit que le meilleur moyen de faire une maison dans cette enveloppe, c'était d'en construire une à l'intérieur grâce à des conteneurs. Donc j'ai fait venir des conteneurs, je les ai empilés, je les ai assemblés et je les ai fermés. Et du coup, ça a permis de faire l'habitation que j'occupe et qui ressemble à un loft en fait, un loft contemporain.
Alors, mais pour la rendre passive, quel moyen ?
Alors pour la rendre passive, d'abord, c'est la première chose, c'est l'orientation. Il a fallu que j'ouvre un maximum au sud. Alors en l'occurrence, là, j'étais obligé de faire en sud-est, mais c'est déjà très très bien. Donc là, j'ai ce qu'on appelle un mur rideau. Un mur rideau, c'est un mur de verre hein, qui est constitué de baies vitrées, orienté sud-est. Et donc c'est un mur rideau qui fait 12 mètres de long sur 5 mètres de haut, qui est tout vitré et qui est mon premier système de chauffage. Mm-hmm. Qui correspond, si j'avais dû, j'avais calculé, on est à peu près à 20 kW. C'est comme si j'avais une chaudière dans la maison qui fait 20 kW. C'est assez colossal.
Alors, il y a des volets, ce que tu appelles des brise-soleil.
Alors évidemment, j'ai parlé de confort, en parlant de chauffage, je parle de confort d'hiver. Le moyen de monter la température de la maison au-dessus de 20 pour vivre dans un environnement confortable. Mais il faut aussi penser au confort d'été. Et pour empêcher la chaleur de rentrer, parce qu'on a cette problématique qui s'impose de plus en plus, il faut agir. Il est évident que des baies vitrées orientées sud en plein été, c'est assez insupportable. Donc on ne peut pas se satisfaire non plus de volets roulants qui fermeraient définitivement l'arrivée de la lumière au sud. Il faut un autre système qui permet de s'affranchir du soleil et de laisser entrer la lumière. Donc c'est ce qu'on appelle des brise-soleil. Ce sont des espèces de volets qui s'articulent et qui permettent, en fonction de l'orientation du soleil, de se fermer plus ou moins pour laisser plus ou moins rentrer la lumière.
Tout à l'heure, tu parlais de trois éléments importants qui sont en effet l'orientation. Donc on a vu l'isolation et il y a aussi l'étanchéité.
Oui, donc il faut agir sur trois paramètres. Donc je reviens, l'orientation, c'est ce que je viens d'évoquer. L'isolation, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, mais là, on est plutôt sur des isolations qui sont de l'ordre de 25 à 30, voire 40 cm sur les murs. C'est absolument pas habituel en France, mais ça va le devenir. Et l'étanchéité, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais c'est fondamental. C'est-à-dire que si on chauffe une enveloppe, une passoire, ça restera une passoire. Il faut absolument s'assurer que la maison soit vraiment étanche, et le maximum. Et certains diront, ouais, une maison étanche, c'est pas ventilé, c'est faux. La ventilation, c'est quelque chose qui se gère avec une ventilation mécanique contrôlée, qu'on appelle une VMC. C'est-à-dire qu'on la quantifie, on la calcule, pour qu'elle ventile correctement la maison, sans aller au-delà du nécessaire.
Alors, dans cette réglementation environnementale, parce que tu as bien souligné tout à l'heure que ce n'est plus une RT, c'est-à-dire une réglementation thermique, mais une réglementation environnementale RE. Il y a donc une obligation d'utiliser des panneaux solaires sur le toit des maisons ou des bâtiments.
Oui, pour faire que la maison soit positive, il faut faire en sorte que la maison soit peu énergivore. Mais même la maison la moins énergivore qui existe sera toujours un peu énergivore. Donc il faut bien lui donner la capacité de produire de l'électricité pour devenir positive. Donc une maison RE 2020, c'est une maison passive comme la mienne, mais qui a des panneaux solaires sur le toit qui vont créer de l'électricité et de fait devenir positive. Là, aujourd'hui, les maisons neuves auront forcément des panneaux solaires sur le toit pour correspondre, pour que leur énergie soit positive. Donc c'est une autre démarche. Celle-là, elle est obligatoire, alors que jusqu'alors, elle était optionnelle.
Oui. Nous arrivons au bout de cette émission. Et donc, Stéphane, tu voudrais notamment évoquer ton activité de metteur en scène. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce propos ?
Bah là, en tant que metteur en scène, donc l'autre casquette, pendant 3 ans, on a été frustrés de produire, de ne pas pouvoir produire quoi que ce soit. Alors, ça nous a, de produire, je dis bien produire, de se monter, de montrer notre travail sur scène. Maintenant, ça ne nous a pas empêchés de travailler. Ce qui fait que là, récemment, moi, j'ai proposé à Saint-Pierre-du-Mont, avec la mise en scène, qui est l'association dans laquelle j'évolue depuis 2007, et tout nouvellement Nom d'Oiseau, qui est une association issue de la mise en scène, mais qui a une vocation professionnelle, j'ai proposé le mois de la comédie. C'est-à-dire que ça fait 15 ans que la mise en scène existe, et qu'on a été créé il y a 15 ans, au mois d'avril. Donc en ce moment, on est en plein mois de la comédie. Ça nous permet de montrer au public le travail qu'on a produit pendant les années de Covid, quoi. Donc c'est un lycée sous Prozac, et puis c'est apparence, c'est jeu de scène, et c'est aussi Mais qui est Monsieur Schmitt. Donc c'est 4 pièces dans lesquelles on a travaillé. Donc le 16 avril prochain, nous allons jouer un lycée sous Prozac. Avec l'atelier du mardi, qui est un atelier dite qui existe depuis l'origine. Donc c'est ce que j'appelle mes élèves expérimentés. Le 23, c'est une pièce qui s'appelle Apparence, qui est une comédie policière et qui va durer 1 heure. Ça reste une comédie, c'est-à-dire que ça fait rire, même si ça paraît un peu étrange, puisque ça parle d'une dame qui a tué son mari. Mais c'est de l'humour noir, très noir, mais ça n'en reste pas moins de l'humour. Et je vous invite à voir cette pièce qui sera diffusée le 23 avril et le 30 avril. En 30 avril, le 14 mai, on jouera Jeu de scène. Donc on va déborder, le mois de la comédie va déborder sur 2 mois probablement. Et Mickey et Monsieur Schmitt sera, par la force des choses, interprété en 2023, puisque nous n'avons pas pu avoir les droits, puisque les droits ont été achetés par une compagnie parisienne professionnelle.
Eh bien, merci beaucoup pour ce très beau programme. Donc, on va se quitter pour le moment et puis se retrouver pour une seconde émission qui sera diffusée, elle, au cours du mois de juin. Merci Stéphane. Au revoir Stéphane.
Au revoir Jeanne-Marie.
Et au revoir à tous les auditeurs.
C'était Les Landes et ma nature, l'environnement dans notre région, avec Jeanne-Marie et Marie-Claire.